Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour chers amis auditeurs, enchanté de vous retrouver en compagnie de Bernard pour la sixième leçon de notre deuxième trimestre de l'école du sabbat qui couvre la semaine du 2 au 8 mai 2009. Cette leçon a pour thème...
Oui Dominique, c'est le péché.
Et nous avons donc notre traditionnel verset à mémoriser qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 18.
Ainsi donc... Comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains. De même, par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. Et la pensée centrale pour cette semaine ?
Le péché et ses conséquences sont une douloureuse réalité de la vie humaine. Loué soit Dieu pour Jésus qui offre à tous le moyen d'y échapper.
L'optimisme des générations passées promettant que tout irait de mieux en mieux dans le monde, cet optimisme est mis en doute aujourd'hui. Notre planète est loin d'être un lieu sûr. La menace terroriste nous donne un sentiment de grande vulnérabilité. La science, supposée annoncer un monde meilleur, est maintenant pour le monde un risque majeur. Les sources d'énergie courante s'épuisent. La calotte glaciaire est en train de fondre. Le crime est partout tristement présent.
Les êtres humains ne donnent guère de signes, pour ne pas dire aucun, comme quoi ils ont progressé moralement par rapport aux générations passées. Le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser. Le flot quotidien des nouvelles nous parle invariablement d'atrocités et de déchéance morale. On a un jour déclaré, chose fort peu surprenante, que s'il existait un enseignement chrétien facilement vérifiable, c'était bien celui du péché humain. Mais rassurez-vous, le péché, aussi désastreux soit-il, n'est pas la fin de l'histoire. Le péché est certes bien réel, mais la grâce de Dieu l'est, elle aussi.
Eh bien, nous allons examiner justement ce thème d'étude pour cette semaine, qui est le péché. Et le dimanche 3 mai 2009, nous avons un thème pour la journée, c'est...
Le péché est une rébellion.
Quel est l'essence du péché? Comment la Bible le définit-elle? Il est dit dans Jean 3, verset 4, « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. » Et le péché, c'est la violation de la loi.
Dans une autre traduction, on lit « le péché s'oppose à la loi ».
La Bible de Jérusalem définit le péché comme étant la transgression de la loi. La loi brisée n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit de la loi de Dieu. Les êtres humains se sont rebellés contre le Créateur, prétendant être eux-mêmes la norme de toute chose, au lieu de se soumettre avec humilité et confiance à la sagesse et à l'amour de Dieu.
Lisons ce que révèlent quelques passages bibliques sur ce qu'est réellement le péché. Nous allons commencer par prendre le texte de Genèse, chapitre 3, versets 2 à 5. Bernard.
Oui, la femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Nous continuons avec les versets 6 à 8.
La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Nous pouvons continuer aussi avec un autre texte dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 14.
Quoi donc ? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux. Au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et un autre texte que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 à 9.
« Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. »
Pourquoi Dieu a-t-il puni Adam et Ève pour ceux qui semblaient n'être qu'un geste anodin? Sans doute paraissait-il sans importance, mais un principe crucial se trouvait impliqué. Le fruit lui-même n'était pas toxique et le péché n'était pas tant d'avoir succombé à la convoitise.
C'est le manque de confiance dans la bonté de Dieu et dans sa parole. C'est le rejet de son autorité qui firent de nos premiers parents des pécheurs et amenèrent ainsi le monde à connaître le mal. C'est cela qui ouvrit la porte à toutes sortes de mensonges et d'erreurs. Voici ce que nous dit Ellen White dans un passage de son livre « Éducation ».
Voici quelle sera l'une des caractéristiques majeures du peuple de Dieu de la fin des temps. Et nous trouvons ce texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14 et le verset 12.
« C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. »
Dieu a fait pour nous tout ce qui était en son pouvoir infini. En retour, il nous demande de l'aimer et de lui obéir. À une époque où le monde est affligé par un non-respect endémique de la loi et une vision philosophique relativiste qui proclame que le bien et le mal dépendent simplement des circonstances culturelles et des préférences collectives ou individuelles, il est nécessaire, et c'est le cas, qu'existe un peuple prêt à défendre loyalement l'idéal de sainteté divin, c'est-à-dire les 10 commandements.
Nous avons tendance à penser que se rebeller équivaut à s'opposer directement à l'autorité et à la rejeter. Mais une rébellion peut prendre des formes plus subtiles. Comment parvenir à découvrir si nous-mêmes ne cultivons-nous pas un certain nombre d'attitudes rebelles envers Dieu ? Question complexe que je vous laisse sur le cœur.
Nous poursuivons cette étude avec le lundi 4 mai 2009, et là nous allons voir...
Comment manquer le but, comment plutôt ne pas manquer le but.
Nous allons voir justement s'il s'agit de le manquer ou de ne pas le manquer. La gravité du péché est souvent minimisée. On ne peut tous être parfaits, disent certains. La gravité réelle du péché n'apparaît que lorsqu'on a compris quelles étaient les potentialités de l'existence humaine créé à l'image de Dieu. C'est un extrait d'un commentaire d'un certain John McCair, un ouvrage en anglais.
Péché, ce n'est pas seulement commettre des actes destructeurs. Jésus situe le péché déjà au niveau des désirs et de l'imagination dans Matthieu chapitre 5, verset 28, par exemple. On peut pécher par omission, par exemple en négligeant des devoirs, ou lorsqu'on refuse délibérément de faire ce qui doit être fait. Nous allons lire dans Matthieu comment Jésus évoque des péchés par omission. Bernard, je vous invite à prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 23, et voir comment, dans ces versets pris dans leur contexte, les implications des déclarations de Jésus apparaissent.
Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire le droit, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Nous avons encore les versets, le chapitre 25 et le verset 45.
Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. »
Eh bien, nous allons prendre maintenant la parabole des talents que nous trouvons dans Matthieu 25 et voir ce qui est arrivé à l'esclave qui avait caché son unique talent. Lisons ce texte, Matthieu 25, tout d'abord 24 à 27.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Et nous continuons avec les versets 28 à 30. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents.
Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Nous avons tous reçu des talents. Utiliser pleinement ces talents est un principe de vie. Nous devons mettre ces dons en valeur et répondre devant Dieu de nos échecs. Rappelons ces paroles de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu.
Et voici ce qui nous est proposé pour terminer cette journée. Péché par omission, péché par la seule pensée. Qui n'en est pas coupable? Méditons sur la promesse de pardon en Jésus. Et bien ainsi s'achève cette journée du lundi.
Alors, avec le mardi 5 mai 2009 qui a pour thème
« Le péché originel ».
Des théologiens font parfois la différence entre nos actes pécheurs et notre nature pécheresse. Nous avons tous été corrompus par la chute d'Adam. Nous sommes tous pécheurs avant même de pécher. Le rituel très répandu du baptême des enfants est étroitement lié à ce dogme. Certains ont pensé qu'un nouveau-né qui meurt sans avoir été baptisé est perdu pour l'éternité. Il est né pécheur et si on ne veille pas à remédier à cette condition, pour eux, il n'a pas droit à la vie éternelle.
Aucun texte des Écritures ne soutient le baptême des enfants, ni l'idée selon laquelle l'enfant qui meurt est automatiquement condamné à la destruction éternelle. Cependant, le péché originel d'Adam et Ève a eu des conséquences universelles. Le péché est entré dans le monde par le biais d'un seul homme, et c'est ainsi que la mort a touché tous les hommes. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 5 et verset 12. Voyons ce que dit l'apôtre Paul des puissantes tendances pécheresses avec lesquelles nous sommes tous nés. Et voici quelques textes, tout d'abord dans Romains 8, les versets 7 et 8.
« Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. » elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et nous prenons aussi Romains 7, versets 21 à 23.
Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres.
Au cours des siècles, des chrétiens ont affirmé avoir atteint un état de perfection. Eh bien, c'est une illusion. Les Écritures disent le contraire. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul », nous est-il déclaré dans Romains chapitre 3, verset 10.
Voici quelques citations d'Ellen White, tirées du commentaire biblique. « La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour. C'est une croissance constante en grâce. On ne connaît le jour même quel sera le combat de demain. Satan est vivant et actif. Nous devons chaque jour crier vers Dieu avec ferveur pour qu'il nous aide et nous donne la force de lui résister. »
Tant que Satan régnera, nous devrons lutter pour soumettre le moi et surmonter des obstacles sans que jamais cela ne s'arrête. Jamais nous ne pourrons dire que nous avons pleinement et définitivement vaincu.
Eh bien, c'est la fin de ce texte d'aujourd'hui sur le péché originel.
La leçon du mercredi 6 mai, péché individuel ou péché collectif?
Depuis la chute, le monde est souillé par le péché. Les conséquences se voient dans la nature, dans l'esclavage et d'autres formes d'exploitation, dans la façon dont nous saccageons les ressources naturelles, etc. Le monde est marqué par le matérialisme, le chacun pour soi, des situations humaines injustes, des comportements iniques.
Ces faits soulèvent de nombreuses questions auxquelles il est difficile de répondre. Notamment, sommes-nous individuellement responsables de ces maux, coupables de cet état de péché collectif? Les considérations suivantes nous aideront peut-être à résoudre ce dilemme.
Tout d'abord, les maux collectifs de notre monde doivent être envisagés en relation avec le grand conflit cosmique. Voici maintenant quelques citations de Frank Holbrook. Derrière l'ascension et la chute des nations, derrière le jeu des intérêts humains, se livre le combat invisible entre Dieu et son armée d'anges loyaux et Satan et son armée d'anges déchus. Combat qui influence directement toutes les activités humaines.
Réfléchissons au caractère destructeur du péché. Celui-ci détruit tout ce qui a de la valeur. Le péché et la mort sont synonymes, ils sont partout. Il n'y a donc pour ce monde aucune espérance sans intervention divine, parce que le pouvoir du péché et de la mort dépasse de beaucoup les facultés de l'être humain à s'y opposer.
Enfin, pourtant, nous exerçons tous une influence certaine. Nous avons tous de petites décisions à prendre qui, éventuellement, contribuent ou diminuent tant soit peu les maux de ce monde. Il nous est possible d'œuvrer pour la paix et la justice, d'agir avec compassion et coopérer avec ceux qui cherchent à préserver l'environnement.
Et voici ce qu'il nous est recommandé à méditer pour cette journée du mercredi. Il est si facile de dire « ces problèmes me dépassent ». Moi, si petit et sans influence, pourrais-je faire quelque chose ? Regardons la vie de Jésus. Il répandait le bien autour de lui, en guérissant les malades, en réconfortant les pauvres. Est-ce que nous pouvons essayer de rendre le monde meilleur autour de nous?
Et nous voici maintenant au jeudi 7 mai 2009, et là nous allons voir quel est...
L'unique remède au problème du péché.
Il n'existe pas de remède simple et peu coûteux au problème du péché. Ce n'est ni par la persévérance, ni par la détermination que les êtres humains le résoudront. Le péché est un problème qui nous dépasse. Le remède est donc au-delà de nos possibilités.
Il règne une grande confusion parmi les croyants concernant la question du salut. Beaucoup affirment qu'il existe de nombreux chemins différents menant au royaume de Dieu. Ces chemins diffèrent, disent-ils, mais ils ont tous la même destination.
Et nous allons lire maintenant quelques textes qui nous parlent du témoignage clair des Écritures et ce qu'elles donnent concernant l'unique chemin conduisant au salut. Et tout d'abord, un texte tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 10, les versets 7 à 9.
Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Bernard, je t'invite à prendre l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 5 et 6.
Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un autre texte que nous tirons du livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12.
Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Nous ne savons pas qui entrera dans le royaume de Dieu. Dieu soit loué, il est le seul à le savoir. Lui à qui appartient le jugement, lui qui est amour et justice. Mais nous avons la conviction que celui qui reçoit la vie éternelle l'obtient parce que le Christ est mort pour lui. Certains n'ont peut-être jamais eu le privilège de connaître le Sauveur, mais ils seront néanmoins sauvés par le nom de Jésus.
Et maintenant, nous sommes invités à nous poser cette question cruciale. Pourquoi Jésus et lui seul pouvait-il sauver l'humanité déchue? Et nous trouverons la réponse dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4.
Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu Très-Puissant. Le Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Et un autre texte que nous allons lire maintenant avec Dominique, Apocalypse 5, les versets 8 à 10.
Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Le Fils divin de Dieu était le seul sacrifice possible ayant suffisamment de valeur pour satisfaire pleinement les exigences de la loi parfaite de Dieu. Il n'a rien été exigé de lui. Il avait le pouvoir d'offrir sa vie, puis de la reprendre. Nul ne le poussait à entreprendre l'œuvre d'expiation. Il s'est délibérément offert en sacrifice. Sa vie avait suffisamment de valeur pour sauver l'être humain de sa condition déchue.
Le Fils de Dieu avait l'aspect de la divinité et estimait ne rien ôter à Dieu en étant son égal. Lui seul, qui a parcouru la terre sous l'aspect d'un homme, pouvait dire à l'humanité entière « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il s'était uni au Père pour créer l'humanité et il avait le pouvoir, grâce à la perfection de son caractère divin, d'en expier le péché, de l'élever et de la rétablir dans sa condition première.
C'était un extrait de Ellen White, une petite citation d'un texte en anglais. Et ainsi s'achève cette journée du jeudi. Vendredi 8 mai 2009, et là nous avons comme d'habitude des textes à vous proposer pour méditer.
Les adventistes savent que le monde ne va pas devenir meilleur. Alors, la question suivante se pose. Quelle doit être notre attitude face aux problèmes du monde? Nous en débarrasserons-nous d'un haussement d'épaule en disant « Dieu a annoncé que les choses ne s'arrangeraient pas, il n'y a plus grand-chose à faire ». Où nous engagerons-nous à essayer de remédier aux problèmes du monde au point d'oublier notre vocation? Diriger les gens vers la seule solution, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et qui va revenir. Comment trouver le juste équilibre?
Notre Église devrait-elle condamner plus clairement les maux collectifs du monde? Ou cela n'aurait-il que peu d'impact tout en nous détournant de notre mandat, c'est-à-dire annoncer l'Évangile à tous? Mais par ailleurs, si nous demeurons silencieux concernant un grand nombre de ces problèmes, quelle est notre crédibilité morale?
De toutes les conséquences du péché, la mort est la pire. L'être humain n'a aucun pouvoir sur elle. Le péché a eu des effets si dévastateurs que seule une intervention surnaturelle de Dieu peut y remédier. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance de lutter contre le péché avec toutes les forces que Dieu nous accorde?
Et voici maintenant, pour terminer cette semaine, le résumé que nous venons d'étudier. Le péché a souillé tous les domaines de la vie. Nous sommes confrontés à une réalité qui dépasse nos possibilités de la surmonter. Mais cette réalité du péché ne peut vaincre la puissance et l'amour de Dieu. Grâce à Jésus-Christ, le péché sera définitivement éliminé de l'univers. Et c'est ainsi que prend fin cette semaine d'études. Nous vous donnons rendez-vous à...
la semaine prochaine.
À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.